Bonjour. Alors, bon, moi je ne suis pas un spécialiste du patrimoine. Je suis un historien et je travaille essentiellement sur l'histoire d'entreprise, sur l'histoire industrielle et scientifique. Donc, j'interviens aujourd'hui en fait parce qu'on a des problématiques communes, c'est-à-dire comment décrire une évolution scientifique et technique. Que ce soit à travers des objets ou que ce soit à travers un récit. Pour moi, l'idée est d'essayer de donner un sens à travers tous ces matériaux, à travers des archives, à travers des équipements, à travers des montages expérimentaux. C'est essayer de décrire une évolution et de trouver ce qui peut faire sens. Donc aujourd'hui, je me suis risqué à décrire en 15 minutes un développement grenoblois qui est extrêmement abondant, donc je demanderai votre indulgence, j'ai fait des raccourcis, mais disons dans l'idée, c'était de réussir à remettre en contexte ce développement et essayer d'expliquer quelques grandes phases qui sont des phases de développement grenoblois, mais qui peuvent se retrouver dans d'autres villes. Alors tout d'abord, bon, même si à travers ces journées et puis à travers Pastèque, le choix est plutôt d'aller vers, je dirais, vers une période post-Seconde Guerre mondiale, moi je pensais qu'il était très important de rappeler le démarrage de cette histoire à Grenoble et qui est une naissance au XIXe siècle, avec véritablement, à ce moment-là, un choix qui est fait, un choix de soutenir les sciences et les techniques au niveau de la ville, que ce soit industrielle ou que ce soit au niveau de la recherche publique. Alors oui, je précise de nouveau pour des questions de temps, je me concentrerai sur cette recherche publique. La seconde phase, on en a déjà parlé, notamment Gérard Chouteau qui en a dit un mot, c'est une expansion fulgurante des activités scientifiques à Grenoble et qui est liée à un contexte beaucoup plus favorable. Qui permet de transformer ces initiatives, de transformer le potentiel qui avait été créé, je dirais, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, en véritablement un grand centre scientifique et technique, faire de Grenoble un grand centre scientifique et technique de France. Et puis, il y a une troisième période que j'aborderai très rapidement et qui, personnellement, en tant qu'historien, me pose beaucoup de problèmes. Étant donné la diversité, l'explosion du panel et la difficulté d'avoir une vision un petit peu générale. Alors, ce choix des sciences et des techniques, on pourrait remonter évidemment à la naissance de la faculté des sciences à Grenoble en 1811, mais disons que sur toute cette période, même s'il existe des gens comme Émile Guémard, comme le chimiste François Raoul, comme le géologue Kilian, qui ont réussi à s'illustrer pendant cette période, on est dans une faculté des sciences qui vivote un petit peu. Il faut quand même décrire un peu le contexte, c'est-à-dire qu'il y a un nombre réduit de chaires, absolument pas de moyens, pas de locaux, ni aucun personnel technique pour encadrer tout ça. Donc on est plus sur un mode de fonctionnement, je dirais, de recherche au niveau de ces chaires, avec des problématiques qui changent évidemment avec le titulaire de la chaire. Donc on est sur un 19e, je dirais, très précaire au niveau de la recherche scientifique et technique. Alors on va assister à un réveil. Il y a beaucoup d'éléments qui pourraient être cités. Moi j'en retiendrai trois. Tout d'abord, les locaux, la question vraiment matérielle. Donc la construction d'un palais des facultés dans lequel les enseignants, qui étaient tous au début du siècle dans une même salle, dans un quartier des Halles, aujourd'hui disparu dans des conditions épouvantables, donc là se retrouvent avec des locaux à la fois d'enseignement et de recherche qui vont constituer une base. Ensuite, il va y avoir un deuxième événement aussi très important. C'est la création d'un cours municipal d'électricité. Donc il faut voir l'électricité sur cette fin du 19e siècle, discipline relativement délaissée par Paris et ses grandes écoles. Donc Grenoble, avec le développement industriel de la houille blanche qui se déroule à cette époque-là, va développer un premier enseignement. Alors cet enseignement va rapidement se transformer en chaire industrielle, en chaire de physique industrielle, grâce à une forte mobilisation de la municipalité et d'associations d'industriels locaux. Et cette première étape va donner naissance aux premières écoles d'ingénieurs grenobloises, c'est-à-dire à l'Institut d'électrotechnique de Grenoble. Alors, pendant ce, je dirais, c'est pendant cette création-là, il y a un autre événement qui est très important, c'est-à-dire la recréation des universités en tant qu'entité qui vont regrouper les différentes facultés et qui vont avoir une certaine autonomie pour choisir une politique de développement, une gestion de leur budget, une gestion de leurs inscriptions. Et c'est là où un choix vraiment fondamental est fait, c'est-à-dire que toutes les facultés rassemblées, que ce soit les droits, les lettres, les sciences, ont choisi de mettre un maximum de moyens pour développer l'enseignement technique, l'enseignement scientifique et technique à Grenoble, ce qui a permis de transformer ce cours d'électricité et cette chaire industrielle en un premier institut et une première école d'ingénieurs. Alors, ce qui va être très, là aussi assez marquant, c'est-à-dire que cette première école d'ingénieurs va immédiatement se positionner au service des industries locales, des industries issues de l'hydroélectricité, en développant progressivement une école d'enseignement et de recherche en papeterie, puis en hydraulique et en mécanique, puis en électrochimie et en électrométallurgie. Donc, petit à petit, qui va couvrir tout un domaine. Cet institut va s'appuyer à la fois sur les chaires présentes à la faculté des sciences et puis aussi sur un personnel qu'elle va réussir à embaucher grâce au nombre d'étudiants qu'elle va attirer, aux subventions qu'elle va réussir à glaner à droite à gauche. Donc on va se retrouver avec un institut qui va occuper rapidement beaucoup de place en physique, en chimie, c'est-à-dire les chaires de mécanique, les chaires de physique, les chaires de chimie vont être en grande partie un petit peu drainées par cet institut sur des problématiques industrielles. Ce qui n'empêche pas, alors, avec ces enseignements, donc ces sections spéciales qui vont progressivement se transformer en écoles d'ingénieurs distincts dans les années 20 et les années 1930, se créent des laboratoires d'essai, dont le rôle essentiel va être d'organiser pour les industriels des contrôles d'équipement, des expertises, des vérifications de matériaux, mais aussi petit à petit de réaliser avec eux et souvent à leur demande des études un petit peu plus complexes, un petit peu plus ouvertes sur des problématiques industrielles, sur la mise au point de procédés, sur ce genre de choses. Donc on a à travers ça des premiers laboratoires qui se mettent en place en dehors des laboratoires de chaire traditionnels, mais extrêmement liés à ces laboratoires de chaire de la faculté des sciences. Alors ceci étant, bon, même si cet institut tient une place quand même assez importante, il ne faut pas oublier les autres disciplines qui se développent à ce moment-là, c'est-à-dire les chaires qui ne sont pas directement concernées par ce développement technique de l'Institut Polytechnique de Grenoble, comme les géologues, comme il y a toute une tendance qui se met en place à ce moment-là, à travers la géologie, à travers la botanique, à travers la zoologie, de se lancer sur des études de l'environnement alpin. Donc on retrouvera notamment l'installation d'un jardin au Lautaret, progressivement la naissance d'un institut de géologie et de géographie alpine, et différents autres travaux, notamment en pisciculture, sur la chaire de zoologie. Alors, ce qui est au-delà de ces questions disciplinaires, je crois que cette période, moi je retiendrai vraiment une transformation fondamentale de ces laboratoires et des pratiques de recherche. C'est-à-dire qu'on passe vraiment, pendant cette période, d'un laboratoire d'une recherche très individuelle à déjà des petites équipes avec une vision un petit peu plus collective, avec des moyens, on commence à glaner quelques postes, on commence à avoir un ensemble d'instruments plus étendus, tant pour les études que pour l'enseignement, et aussi on commence à voir se développer autour de ces petites entités des recherches, des petits groupes de thésards. Donc on va gagner, on va passer de l'individu avec cette instabilité à, je dirais, une vision un petit peu plus collective et pérenne de la recherche, même si en termes de moyens, il faut rester extrêmement prudent.
On a déjà dépassé en fait le temps, donc est-ce qu'en 5 minutes vous pensez qu'on peut essayer d'aborder les 2 autres phases? Je suis désolée, hein, j'essaye de donner le temps de parole et c'est très intéressant, hein, personnellement je prends beaucoup de notes. Voilà, je sais que l'exercice est extrêmement difficile pour vous, hein, oui. 15 minutes, il en faudrait 3 heures, on en est bien d'accord. Voilà, c'est pour que les autres intervenants puissent aussi nous présenter leur exposé, merci.
Alors je vais essayer d'accélérer. Donc on reste d'un point de vue patrimonial sur un nombre assez restreint de chercheurs, de lieux, d'institutions, avec un paysage très simple à appréhender. Alors l'expansion des activités scientifiques qui va se dérouler dans les années à partir de la guerre, elle est assez connue, elle a été longuement détruite. Donc en termes de contexte, il ne faut pas oublier qu'il y a un investissement étatique sans précédent. On bascule complètement sur une période 19e, début 20e, vraiment qui est encore une période de récompense. Là, un investissement massif avec des subventions, avec des moyens, avec la création de très grands organismes nationaux type CNRS et CEA qui vont permettre de créer des catégories de chercheurs en dehors des enseignants-chercheurs de la faculté des sciences. Il y a aussi l'ouverture de l'enseignement supérieur avec petit à petit une évolution vers l'université de masse et là aussi un apport de moyens considérables. Et puis un mouvement de décentralisation assez général dont va profiter Grenoble, c'est-à-dire que ce mouvement de décentralisation va favoriser les sites qui sont déjà relativement avancés dans leur développement. Nous allons avoir ensuite l'essor d'un nouveau modèle de laboratoire, c'est-à-dire, bon, là aussi l'histoire est bien connue, Louis Néel qui va se replier à Grenoble et qui va donner une impulsion majeure pour la physique en acceptant de rester à Grenoble, il va obtenir du CNRS la création du premier grand laboratoire du CNRS sur la ville. Il va aussi, pour les besoins de la physique, mais qui va prendre une expansion beaucoup plus importante, réussir à obtenir l'installation d'une pile nucléaire et la création du CNG, du Centre National, du Centre d'études nucléaires de Grenoble. Là-dessus aussi, c'est une période extrêmement riche sur le développement de la faculté des sciences et de l'Institut Polytechnique. J'accélère. Donc nous avons là un très net changement d'échelle, c'est-à-dire la création de très grands centres, de fédérations de laboratoires qui gagnent en moyens, qui sont rattachés à plusieurs entités administratives, ce qui leur permet aussi d'avoir une autonomie renforcée. Nous avons tout le développement du CENG, du CEA, qui là aussi, non seulement dans le domaine nucléaire, mais va évoluer notamment dans le domaine de l'électronique. Et puis une expansion géographique de la ville à partir du centre-ville, avec la création de 2 nouveaux pôles, l'un à Saint-Martin-d'Air et puis l'autre sur l'ancien polygone. Donc là, on arrive, alors qu'on était, je dirais, sur la fin des années 30, à moins d'une centaine de personnes, là, on arrive à près de 3 500 personnes, chercheurs, administratifs, techniciens, qui gravitent autour de ces centres de recherche, mais néanmoins avec une visibilité liée à quelques grands patrons que l'on retrouve dans différentes structures. La période contemporaine, entre guillemets, donc c'est la création vraiment d'un écosystème de plus en plus complexe. Tout d'abord, des phases de crise et de mutation qui seraient vraiment intéressantes à détailler et à retracer, qui vont suivre l'éclatement de l'université en 1968, sa scission entre université scientifique et médicale et puis NPG, la remise en question d'un certain nombre d'axes traditionnels qui sont directement liés avec les évolutions industrielles, là aussi des préoccupations qui reviennent en force sur les retombées industrielles de la recherche, sur des questions de concurrence internationale, de brevets, et puis la montée en puissance de nouvelles disciplines qui est soutenue par l'arrivée de nouveaux acteurs, la diversification de la physique, le redéploiement de l'informatique, percée de la biologie et des sciences médicales, micro- et nanotechnologie. Et on arrive aujourd'hui à une nébuleuse qui est très très difficile à appréhender, avec une multiplicité d'acteurs, à la fois privés, à la fois publics, une imbrication très très forte avec des partenariats très importants, des croisements. Et c'est-à-dire, en tant qu'historien, pour moi, la grosse difficulté entre l'individu, l'équipe, le laboratoire, les fédérations, les pôles, les axes, etc., il y a une multitude d'entrées qu'on favorise. Chaque entrée, effectivement, on a un type de patrimoine différent. Je m'arrêterai là. Merci.